Il est 18h, vous écoutez Europe 1.
Beaucoup d'émotions, une émotion incroyablement forte de voir Maurice Genevoix entrer au Panthéon avec ses frères-là.
Ils ne seront pas nombreux tout à l'heure, mais lui sera là, le petit-fils de Maurice Genevoix, invité de la cérémonie qui verra son grand-père entrer au Panthéon.
Une cérémonie particulière en pleine pandémie, des invités triés sur le volet et un moment que le président Emmanuel Macron veut solennel.
La cérémonie du 11 novembre attaquée à Djeba en Arabie Saoudite, attaque à l'explosif qui a fait 2 blessés.
Le Conseil de défense se penchera demain sur la situation sanitaire. Les petits commerçants resteront fermés, mais ils réclament un agenda.
Course-poursuite en plein Marseille entre policiers et malfaiteurs qui n'ont pas hésité à sortir leurs armes et à tirer.
Et puis le foot, France-Finlande, ce soir à Saint-Denis. Comment vont les Bleus d'ailleurs? La réponse à la fin de ce journal.
La Bourse de Paris finit en hausse de 0,48% à 5 445 points.
Et puis la météo, Isabelle, pour
oui, un
demain.
Temps plus lumineux demain, Anissa.
Oui, beaucoup plus lumineux, avec des éclaircies qui seront nettement plus généreuses demain. La perturbation pourrait apporter quand même quelques petites averses. Les températures sont toujours douces. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Après Simone Veil il y a 2 ans, Emmanuel Macron s'apprête donc à faire entrer un héros de la Grande Guerre et un grand écrivain pour clore un cycle, celui de la commémoration de la Grande Guerre. Maurice Genevoix, blessé lors de la très longue et affreuse bataille de Verdun, va donc entrer au Panthéon. Adrien Beck, vous allez suivre cette cérémonie pour Europe 1. C'est un moment, une cérémonie que le président a voulu solennelle.
Oui, dans et à l'extérieur de ce temple républicain qu'est le Panthéon, dont la façade va doucement s'éclairer dans quelques minutes. Au pied de ce fronton, aux grands hommes, la patrie reconnaissante, 101 cubes de verre éclairés sont disposés pour les 101 départements. Des étudiants de l'ENS, l'école de Maurice Genevoix, vont déposer dans le 101e, face à l'entrée, une poignée de terre, des éparges, ce village meusois de la bataille vécue dans sa chair et racontée en détail par Genevoix. Peu après, son cercueil porté par des gardes républicain remontera la rue Soufflot, cette rue qui part du jardin du Luxembourg et aboutit place du Panthéon, passera devant l'étendard de son régiment, le 106e régiment d'infanterie, régiment aussi de ceux de 14. La façade sera alors illuminée en bleu, blanc et rouge au son d'une œuvre originale du compositeur Pascal Dussapin. Le cercueil gravira alors les marches du Panthéon marquées du drapeau français. Les portes s'ouvriront, Maurice Genevoix entrera littéralement au Panthéon. Une cérémonie conclue par Emmanuel Macron. Le chef de l'État prononcera un discours où il fera évidemment le lien entre l'épreuve, et c'est peu de le dire, vécue par ceux de 14 et celle que nous vivons aujourd'hui, celle au pluriel, des héros à hauteur d'homme, dit l'Élysée, avec l'idée d'exalter l'unité de la nation. Ce sera alors le terme de ce rite républicain.
Adrien Beck en direct du Panthéon à Paris. On vous retrouvera, Adrien, tout au long de ce 18-20 ce soir. On l'a dit, cette cérémonie sera forcément particulière. Crise sanitaire oblige. Les invités ont plus que jamais été triés sur le volet.
Et parmi eux, il y a notamment le petit-fils de Maurice Genevoix, Julien Larrère-Genevoix, qui perpétue la mémoire de son grand-père à travers l'association Je me souviens de ceux de 14. Il va donc escorter le cortège funéraire qui fera son entrée au Panthéon. Un moment forcément très émouvant pour lui.
Beaucoup d'émotions. Et puis, émotions d'abord à titre personnel, parce que c'est vrai que c'est un long chemin pour notre famille, et puis surtout une émotion incroyablement forte de voir Maurice Genevoix entrer au Panthéon avec ses frères d'armes, et en quelque sorte, lui comme porte-étendard, a dit le président de la République, ou on peut dire aussi le marchepied. C'est moins élégant, mais je crois que c'est vraiment le sens de notre démarche, c'est-à-dire que lui et sa notoriété ont servi la cause et la mémoire de ses frères d'armes.
Julien Larrère-Genevoix, le petit-fils de Maurice Genevoix, il était l'invité de Patrick Cohen dans Europe Midi.
Les célébrations du 11 novembre et de l'armistice ont commencé à 11h ce matin, toujours en petit comité avec la traditionnelle cérémonie sous l'Arc de Triomphe pour honorer la mémoire du soldat inconnu.
Et à l'étranger, la cérémonie du 11 novembre a été attaquée à Djeba en Arabie Saoudite. Attaque à l'explosif dans un cimetière non musulman au moment où le consul de France achevait son discours. Il y a 2 blessés, Jean-Sébastien Soldaini.
2 victimes de nationalité grecque et saoudienne, car c'était une cérémonie internationale organisée par plusieurs consulats. Une 40aine de personnes en tout réunies dans ce cimetière et qui écoutaient la fin du discours du représentant français lorsque cette explosion a retenti. A priori, c'est un engin disposé à l'extérieur contre le mur d'enceinte, mur qui a en partie lâché. Le petit comité s'est vite dispersé dans une scène de panique. Des voitures particulières et officielles se chargent de faire des évacuations. Sabrina Belmaziz était présente. Elle dirige la maison des Français de Djeda. Elle se dit certaine que c'est notre pays qui est visé. Elle dit aussi prendre conscience d'une menace.
Le déclencheur, ça a été aujourd'hui. On a l'habitude de vivre sereinement en Arabie Saoudite. Les Français n'avaient pas pour habitude d'être visés. De toute façon, tout a commencé avec les caricatures. Je crois que le risque a encore plus augmenté depuis le décès du professeur Samuel Paty. Mais franchement, à partir d'aujourd'hui, je ne me sentirai plus en sécurité. C'est la seconde fois en 10 jours. Il y a déjà eu une tentative d'attentat devant le consulat de France. Ça fait quand même beaucoup.
La précédente attaque date du 29 octobre. C'était déjà à Djeddah. Le ministère français des Affaires étrangères avait alors envoyé un message à tous ses ressortissants, appelant à la prudence en pleine polémique avec la Turquie autour de la liberté d'expression. Paris estime que la menace contre les intérêts français est désormais partout.
Jean-Sébastien Soldaini.
Europe 1, il est 18h05 et demain, à cette heure-ci, le Premier ministre sera en train de s'exprimer sur la crise sanitaire. Et pour les commerçants indépendants, Christophe, pas de cadeau à attendre.
Non, on ne va pas faire durer un suspense aussi inutile que cruel. On fera le point sur la propagation de l'épidémie un peu plus tard. Le gouvernement ne va pas relâcher la bride. En clair, les commerces non essentiels, entendez par là les salons de coiffure, les fleuristes, les magasins de vêtements, resteront fermés. Emmanuel Dutheil, les petits patrons commencent à trouver le temps long et surtout, ils demandent au gouvernement de mettre fin au supplice. Donnez-nous un calendrier, mais cessez ce goutte à goutte insupportable.
Oui, hein, que ce soit les centres commerciaux, les magasins de jouets ou l'habillement, tous sont sur la même ligne. On doit rouvrir au plus vite pour sauver notre saison de Noël. Pour tous, une grosse partie du chiffre d'affaires de l'année se fait dans les 6 semaines avant Noël, et notamment au moment du Black Friday fin novembre. Cet événement commercial est devenu le plus gros moment de consommation en France. Alors ce que demandent tous ces commerçants, c'est une date rapide de réouverture et une date qui ne bougera plus. Ils ont bien compris que ce ne sera pas ce week-end. Certains espèrent quand même pouvoir convaincre le gouvernement d'une réouverture dès le dernier week-end du mois de novembre. Ils sont prêts à renforcer encore si besoin les protocoles sanitaires. Sur cette date de réouverture, rien n'est encore arrêté. À Bercy, on est bien conscient de la situation, notamment pour des secteurs comme le jouet, qui fait en 6 semaines la moitié de son chiffre d'affaires. On veut leur donner de la visibilité et donc arrêter d'ouvrir et de fermer les commerces. Mais voilà, reste à trouver la bonne date et ça, ce n'est pas simple.
Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1. Quant aux chiffres de l'épidémie, eh bien, il reste, Christophe, à des niveaux élevés.
Un peu plus de 22 000 contaminations ces dernières 24 heures. Sur une semaine, on enregistre 20 000 hospitalisations, dont 3 095 débouchent sur une admission en réanimation, selon Santé publique France, qui fournit ces chiffres ce soir.
Partout dans le monde, en tout cas, les tests et les essais cliniques de vaccins anti-Covid se multiplient.
Le Brésil reprend les essais d'un vaccin baptisé CoronaVac d'origine chinoise. Il avait été suspendu après la mort d'un volontaire qui se serait en réalité suicidé. Et puis à Moscou, les autorités annoncent que le vaccin russe Sputnik 5 est efficace à 92% selon un communiqué, soit un peu mieux que le vaccin développé conjointement par le laboratoire américain Pfizer et l'allemand BioNTech.
En Méditerranée, une collision entre 2 navires a fait 5 morts.
Il s'agit de 5 pêcheurs turcs dont le navire a heurté un pétrolier grec. Pas davantage de précision pour l'instant, mais cet incident dramatique survient dans un climat de tension diplomatique entre la Grèce et la Turquie. Les deux pays revendiquent une zone maritime de la Méditerranée orientale riche en hydrocarbures.
Europe Soir, le 18-20. Isabelle Millet.
Il est 18h10 et c'est la suite du journal de Christophe Lamarre. À Marseille, on a cru à un mauvais film, mais non, des malfaiteurs ont sorti des armes à feu face à des policiers aujourd'hui.
Oui, au départ, il s'agissait de leur échapper, mais Guillaume Bier, ce qui est inquiétant, et cela devient d'ailleurs une habitude, c'est que les malfaiteurs n'ont pas hésité une seconde. Ils ont tiré en direction des policiers et 6 personnes sont en garde à vue ce soir.
Oui, fusillade et course-poursuite en plein jour. Hier matin, d'abord dans une cité des quartiers nord, des suspects tirent sur un homme sur une passerelle, victime touchée à l'épaule. Puis ils s'enfuient à bord de 2 voitures. Très vite, des policiers les poursuivent, mais les malfrats ouvrent le feu plusieurs fois dans leur direction, à l'arme de poing et au fusil, sans les toucher. Ordre est alors donné aux policiers de stopper la poursuite, car en fait, la police judiciaire était déjà sur la trace des suspects qui étaient sous surveillance dans une enquête d'association de malfaiteurs. Résultat, quand ils ont regagné leur planque à 20 km de là, les hommes de la BRI et du RAID leur sont tombés dessus. 4 malfaiteurs arrêtés, des jeunes délinquants de 20 à 25 ans, plus 2 autres suspects, un homme et une femme plus âgés interpellés un peu plus tard. Ils sont donc 6 en garde à vue. Sur place, d'après nos informations, les enquêteurs de la PJ ont notamment saisi 9 armes à feu, 6 fusils et 3 pistolets. À ce stade, l'enquête s'oriente vers la piste de malfaiteurs chevronnés, bien ancrés dans le banditisme.
Les précisions de Guillaume Bier, chef du service police-justice d'Europe 1.
Le football, Saint-Denis, dernière station avant de passer aux choses sérieuses.
Vous voulez dire dernière possibilité pour les jeunes pousses de l'équipe de France de briller, Christophe, face à la Finlande ce soir.
Ben oui, c'est ça, histoire de ne pas finir au terminus des prétentieux et de peut s'offrir le droit de revenir.
Donc si je comprends bien, Didier Deschamps devrait donc faire le choix de l'inexpérience. On dira plutôt qu'il va tenter des choses, hein, Cyril de la Morinerie.
Oui, comme certains cadres sont blessés, notamment Mbappé, Hernandez, Pavard, qu'il espère d'ailleurs les récupérer, hein, pour le choc prévu samedi au Portugal. Et bien le sélectionneur en profite pour donner du temps de jeu aux remplaçants habituels. On pense à Lucas Digne sur le côté gauche, absent de la Coupe du Monde, mais très régulier à son poste, à Kurt Zouma qui monte en puissance à Chelsea, à l'attaquant Ben Yedder qui pourrait être titulaire pour la cinquième fois sous l'ère Deschamps, car dans l'esprit du sélectionneur, tout peut arriver d'ici le mois de juin.
C'est jamais figé, parce que je sais trop bien que je n'ai pas encore les données exactes pour l'Euro qu'on aura au mois de juin, mais forcément il y a des situations, des joueurs qui ne peuvent pas être disponibles, et donc d'en avoir vu d'autres sur un an, deux ans, ben c'est quelque chose d'important.
L'occasion aussi de redonner confiance à Paul Pogba, peu utilisé avec Manchester United, d'honorer Steve Mandanda, numéro 2 exemplaire présent depuis 12 ans en équipe de France, il sera capitaine ce soir, de permettre à Giroud d'augmenter son compteur but, de voir sans doute à l'œuvre pour la première fois le fils de Lilian Thuram, Marcus, des joueurs qui espèrent donc bousculer la hiérarchie à condition de battre, comme toujours, cette équipe finlandaise. Attention tout de même au pays des champions du monde de rallye. Le football se développe à grande vitesse, à vitesse grand V. Les Finlandais ont obtenu pour la première fois de leur histoire leur billet pour le prochain Euro.
Cyril de la Morinerie en direct du Stade de France, France-Finlande ce soir. Coup d'envoi à 21h10.
Et ce sera à suivre en fil rouge, évidemment, sur Europe 1. Merci Christophe Lamarre. On vous retrouve à 18h30 pour le rappel des titres de l'info et à 19h, bien sûr, pour un nouveau journal. La météo, Anissa Haddadi, cette fois, je ne vous ai pas oublié. Un temps qui sera mitigé, hein, demain.
Oui, c'est ça, c'est effectivement comme ça qu'on peut résumer cette journée un petit peu étrange, parce que nous avons cette perturbation qui touche depuis cet après-midi la Bretagne et qui va avancer demain, sauf que c'est une perturbation très peu active. Donc demain, pour les régions situées entre la Vendée et l'Alsace, hein, donc l'Auvergne, le Centre-Val de Loire, la Bourgogne, eh bien là vous aurez un ciel chargé avec quelques petites gouttes seulement à l'arrière de la perturbation. Sur le nord-ouest, le soleil revient, mais attention, sur les Hauts-de-France, les Ardennes et la Normandie, nous aurons là aussi quelques petites gouttes à prévoir. Dans le sud, toujours des entrées maritimes au bord de la Méditerranée et pas mal de brouillard dans les terres. Dans l'après-midi, le ciel va se dégager, les éclaircies seront beaucoup plus généreuses, sauf au bord de la Grande Bleue, où là, les entrées maritimes rendent le temps un petit peu gris. La douceur, alors elle se maintient. Ça ne bouge pas côté température, avec 3 à 5 degrés au-dessus des moyennes de saison. 6 à 13 demain matin, 13 à 16 demain après-midi sur la moitié nord, et jusqu'à 22 degrés demain dans le Béarn.
Merci Anissa, vous revenez tout à l'heure pour un nouveau point.
À tout à l'heure.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Milleux.
Il est 18h17, merci à vous d'écouter Europe 1. C'est l'heure de l'invité d'Europe Soir et je reçois ce soir le professeur Gilbert Deray, chef du service de néphrologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Bonsoir à vous.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce soir en direct sur
avec
Europe 1. Alors je voudrais d'abord vous demander quelle est la situation aujourd'hui dans votre hôpital. Est-ce que c'est confirmé, la deuxième vague, elle est pire que la première ?
Alors, ça dépend comment on l'analyse. Premièrement, en nombre de patients hospitalisés globalement sur la France, on est au même niveau. 31 000 et des poussières. Il y a une petite différence. On a un tiers de patients en moins en réanimation. Et ça tient aux progrès qui ont été réalisés. On garde les gens
plus longtemps
une unité sous oxygène. On donne des corticoïdes. On donne des anticoagulants. Donc ça, c'est un énorme progrès. Donc pour un même nombre de patients, moins de patients en réanimation, ça veut dire moins de décès à l'arrivée. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais on est en surtension, ça c'est très clair. Hein. Et comme ça va continuer...
Et le rythme des admissions, il ne ralentit pas ?
Ah ben, là, pour l'instant, le rythme des admissions continue à un seuil élevé. On a, à l'assistance publique des hôpitaux de Paris, donc on va dire en Ile-de-France, on a un rythme qui se ralentit légèrement. On a... Alors, c'est l'augmentation qui ralentit. Hein. Voilà, c'est un peu comme les dettes. Hein.
Ouais.
Et on a un nombre de patients hospitalisés, un nombre de patients en réa qui augmente moins ces derniers jours. Si ça se confirme, c'est bon signe, mais il faudrait après que ça se confirme sur toute la France, parce que comme vous le savez, c'est maintenant toute la France qui est concernée, et non plus Île-de-France et Est. Donc nous, ça va un peu mieux, c'est rouge partout néanmoins.
Alors il y a quand même des chiffres qui nous donnent un petit peu d'espoir, ces chiffres de Santé publique France, le fameux R effectif, c'est-à-dire le nombre de reproductions du virus au niveau national, qui tombe en dessous de 1. Ça veut dire, pour qu'on comprenne bien, que 10 personnes en contaminent 9, 9 en contaminent 8, c'est ça ?
Ce que vous avez dit est exact, c'est-à-dire que quand on est à 1, c'est une personne qui fait 1, et quand on est à 0,9, c'est une personne qui fait 0,9. Et L'objectif est d'être à moins de 1. On rappellera que lors du confinement précédent, on est descendu à 0,77, c'était bien, qu'on a réussi à tenir pendant tout le confinement, on n'y est pas. Mais attention, ce chiffre, c'est une extrapolation. Et je ne suis pas sûr, moi, qu'il soit exact pour l'instant.
Parce qu'il y a des problèmes techniques, apparemment.
Je nous engage à faire très attention en ce moment, car en dehors des chiffres d'hospitalisation et de réa qui sont sûrs, encore pourrait-on discuter de la réa, les autres, le taux d'incidence, le nombre de cas est sujet à problème. Par exemple, pour le nombre de cas, premièrement, il y a eu des problèmes de remontée. Deuxièmement, on fait maintenant des tests antigéniques et qui ne rentrent pas dans les comptes. Et donc, attention aux chiffres. Donnons-nous au moins une semaine de recul. Je ne suis pas du tout sûr qu'ils soient inférieurs à 1.
Alors, professeur Gilbert Deray, demain à 18h, le Premier ministre Jean Castex va prendre de nouveau la parole pour évoquer cette situation sanitaire. Vous dites-vous qu'il faut d'ores et déjà préparer les esprits et qu'il est quasi impossible que les fêtes de Noël puissent se dérouler normalement?
En fait, je suis évidemment très triste comme tout le monde, mais je crois qu'on doit à la fois tenir compte des leçons du passé, c'est-à-dire du déconfinement qui a été raté, et la situation actuelle. Nous sommes dans une épidémie galopante, 40 000, 50 000 cas par jour. On est sorti à 100 à 300 cas par jour lors du déconfinement. L'Allemagne et l'Italie ont réagi à 4 000 cas par jour. Il va nous falloir des semaines et des semaines pour arriver peut-être au chiffre qui a été indiqué, c'est-à-dire 5 000 cas par jour. Là encore, 5 000 cas par jour, c'est beaucoup, hein. C'est 20 fois plus que ce que nous avions au déconfinement précédent. Donc, ce n'est pas extraordinaire. Si nous sortons dans quelques semaines à 5 000 cas par jour, on ne peut pas lever le couvercle, c'est juste inimaginable. Il ne faut pas qu'on mente aux Français, ce n'est pas vrai. On ne pourra pas lever le couvercle, ça va récidiver. On ne va pas recommencer la fête de la musique, la fête à Nice, le Technival. Allez, prenez un peu de bon temps pour ensuite nous remettre le couvercle sur la tête.
Mais est-ce qu'on sera à ce chiffre-là à Noël déjà?
Je ne le sais pas, parce que pour l'instant, justement, je ne comprends pas les chiffres qui nous sont remontés de taux pour les raisons que je viens de vous indiquer, de cas de nombre de cas. Je ne sais pas quelle est la réelle incidence, parce qu'on a des problèmes. Donc, rendez-vous dans 8-10 jours pour qu'on puisse mieux les analyser. Mais, de toute façon, l'honnêteté est de dire aujourd'hui qu'il est très peu probable que d'ici la fin décembre, nous soyons dans une situation qui soit complètement réglée. Et même si on descendait à moins de 5 000, l'honnêteté est de dire qu'il serait dangereux de reprendre une activité normale. Donc, il faut trouver un compromis.
Alors, il y a 53% des Français, d'après un sondage Opinionway, qui pensent qu'ils ne passeront pas les fêtes de Noël en famille. On sent qu'il y a déjà une certaine résignation. Vous, qu'attendez-vous du Premier ministre demain soir? Il faut que dès demain, ils disent « bon ben voilà, il n'y aura pas de Noël en famille cette année ».
Non, moi ce que j'attends, comme depuis le début d'ailleurs, j'attends qu'on dise les choses claires, nettes, précises, la vérité. Quelle est notre situation aujourd'hui? Quelles sont les possibilités? Quelles sont les perspectives? Il est légitime que rien ne soit exclu. Mais dans les cas de figure qui vont nous être proposés, qu'on nous dise ce qui est le cas de figure le plus probable. Et puis, si on se trompe, si le cas de figure est le plus favorable, tant mieux. Mais c'est peu probable. Donc moi, j'attends juste que ceux qui nous gouvernent nous annoncent la réalité des fêtes, de façon à ce qu'on évite justement ces à-coups.
Mais est-ce que vous attendez aussi qu'on durcisse les mesures actuelles? Parce que bon, il y a cette crise sanitaire, effectivement. Il y a aussi la crise économique à laquelle vous ne pouvez pas être insensible.
Mais justement, vous posez une excellente question. Je suis extrêmement sensible à la crise économique et à une crise sociétale. Quand on me dit « oui, mais Noël, c'est la famille », je suis sensible à ça. Mais moi, ce que je souhaiterais en tant que maintenant citoyen en priorité, c'est qu'on réouvre des commerces. Que je préférerais que dans cette période de fin décembre, on commence à pouvoir réouvrir des commerces, donc à sauver des vies, parce que ce sont des vies qui sont en jeu dans ces commerces, plutôt que d'emblée recommencer à faire ce qu'on a fait l'été, des mariages, des fêtes, etc.
C'est important ce que vous nous dites, parce qu'hier, ici même, dans notre émission SOS Petit Commerce, on a entendu beaucoup de détresse, beaucoup d'incompréhension aussi. Par exemple, les libraires nous expliquaient qu'ils pouvaient sans problème faire rentrer un client à la fois. Pourquoi ce n'est pas possible dans ces conditions de rouvrir les librairies? Mais ça vaut aussi pour beaucoup d'autres commerces. Hein.
En fait, ça vaut pour tous les commerces. Bon, la librairie, c'est un symbole. Hein.
Oui.
On est bien d'accord, mais moi, je suis aussi sensible au coiffeur qui peut, même si ce n'est pas un objet littéraire, qui est obligé de fermer sa boutique.
Ou au marchand de jouets, il n'y a pas plus de risque de contamination chez le marchand de jouets que chez son épicier.
Le fleuriste est un symbole.
Ou le fleuriste.
Donc, regardons les faits. Dans toute l'Europe, l'épidémie a la flambée. Et même en Allemagne, même en Italie en particulier, alors qu'on a déconfiné, elle est juste un peu trop vite, elle a flambé. Donc on sait que ce virus, il faut faire extrêmement attention. Et il y a un moment où malheureusement, on ne peut plus faire dans le, entre guillemets, excusez-moi l'expression, mais dans le détail. J'aimerais bien, moi, qu'on puisse. Pour le faire dans le détail, il faudrait, et peut-être qu'on y arrivera dans l'avenir, savoir exactement où se fait la contamination, ce qu'on ne sait pas. si on était capable demain de montrer, de prouver que chez les fleuristes, il n'y a pas de contamination, bah, laissons les fleuristes ouverts, etc., etc., etc. Pour l'instant, cet exercice de style c'est est strictement impossible. Et on sait que si on laisse trop de commerces ouverts, trop de lieux ouverts, ça vaut pour les écoles, hein, le choix des écoles, ce n'est pas un choix sanitaire qui a été fait, c'est un choix sociétal. On sait que si on laisse trop de lieux ouverts, ça fait de la circulation et le virus circule et l'épidémie reprend.
Alors justement, on avait évoqué un temps, une éventuelle possible fermeture des lycées. A priori, ils vont rester ouverts. C'est une bêtise, selon vous, il faut fermer les lycées.
Je ne sais pas. Alors, vous savez,
parce que les précautions recommandées par le gouvernement n'y sont pas respectées. C'est trop compliqué.
Je crois que les termes très intelligents ou très bêtes, on va pas les prendre parce que c'est compliqué, justement. Et parce qu'il n'y a pas de situation parfaite. Sur le plan sanitaire, le parfait, c'est de tout fermer, c'est impossible, il ne faut pas le faire. Sur le plan sociétal, il faut tout ouvrir, on ne peut pas le faire, donc on ne le fait pas. Donc on essaie de trouver des justes milieux. Oui, les lycées posent un problème, parce que le lycéen, et même probablement le collégien, contamine autant qu'un adulte. Et c'est évidemment évident qu'on a une forte circulation du virus. Donc soit on dit, on ferme les lycées, mais c'est un problème pour nos élèves. Soit on essaie de trouver des compromis. Moi, j'aimerais bien qu'on essaie de trouver des compromis. Et les compromis, ce serait d'avoir un meilleur contrôle sanitaire. Qu'on ait vraiment des lycéens qui puissent porter le masque, y compris dans la cour.
Mais vous savez comme moi que c'est très compliqué de faire appliquer tout ça pour des lycéens qui sont pratiquement des adultes, vous l'avez dit.
Toutes les heures, que les fenêtres soient aérées trois fois par heure, etc.
Parfois, il y a des classes où les fenêtres n'ouvrent même pas. Donc tout ça, c'est effectivement très compliqué.
Je vous ajouterais que peut-être il va falloir là qu'on aille regarder un peu plus dans le détail. Il y a des villes, des endroits, des villages où à l'évidence on va pouvoir le faire, puis d'autres on ne va pas pouvoir le faire. Pourquoi alors fermer tous les lycées? Et enfin, peut-être qu'on peut servir des tests antigéniques. Et si on faisait un dépistage massif, comme ça a été fait sur des campus américains, pour savoir quelle est la situation? On trouvera peut-être alors des lycées et des collèges où il n'y a rien, des lycées et des collèges où il y a des problèmes, et on va travailler sur cela, et mettre de côté ceux qui sont contaminés, les contacts, et laisser les lycées ouverts. Et si on trouvait quelque chose de plus intelligent?
Professeur De Rey, hier, Europe 1 révélait que ça y est, les forces de l'ordre vont contrôler les gens dans la rue, dans les parcs, dans les gares. Quand vous sortez et que vous voyez tous ces Français dehors, comme si on n'était pas en confinement, ça vous exaspère ou vous comprenez?
C'est compliqué. Premièrement, si j'en crois les index de mobilité, il y a vraiment eu une baisse de la sortie, de la circulation des gens. Donc ça, c'est bien. Deuxièmement, j'aimerais bien avoir mes indices, là, dans les jours qui viennent. Quand j'aurai les indices, vraiment, dans les jours qui viennent, il y a deux possibilités. Soit ces indices sont vraiment à la baisse, on est en train de gagner et que ça va bien. Soit ces indices ne sont pas à la baisse. Et oui, il faudra être plus sévère vis-à-vis des incivilités. Car Merci. C'est une incivilité.
Merci beaucoup, professeur Merci Gilbert De Rey, de nous avoir apporté votre témoignage toujours éclairant ce soir en direct sur Europe 1.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Millet.
18h30, c'est l'heure du rappel des titres avec vous, Christophe Lamarre.
La réouverture des petits commerces n'est pas à l'ordre du jour à ce stade. À la veille d'une conférence de presse du Premier ministre sur la situation sanitaire, son entourage se charge d'évacuer la question. Le ministre des Relations avec le Parlement écarte l'hypothèse d'une réouverture des commerces. Il estime au contraire que leur fermeture permet de freiner la propagation du virus. La Commission européenne approuve l'achat de 300 millions de doses de vaccins anti-Covid au laboratoire pharmaceutique Pfizer et BioNTech. À condition qu'il démontre son efficacité, les premières vaccinations pourraient intervenir dès le premier trimestre 2021, affirme la directrice de l'agence européenne en charge des épidémies. L'assurance emprunteur moins chère et plus intéressante en termes de garantie, c'est l'une des conclusions du rapport du comité consultatif pour le secteur financier. Depuis que les banques n'ont plus le monopole de l'assurance crédit, la baisse atteint de 10 à 40% en faveur du consommateur, indique le CCSF. Et puis sur Terre, c'est l'armistice, mais sur mer, les skippers du Vendée Globe affrontent l'enfer. Une dépression tropicale a fait quelques dégâts parmi les concurrents. L'un des favoris, Jérémy Bayou, a fait demi-tour et rentre au Sable d'Olonne pour réparer.
Merci beaucoup Christophe Lamarre. L'info revient avec vous à 19h avec un nouveau journal complet.
La météo sur Europe 1 avec Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS, agréé CNAPS.
Anissa, quelques averses, mais aussi du soleil hein, pour demain.
Oui, des averses à cause de cette perturbation qui est actuellement sur la Bretagne, qui va traverser le pays. On pourra avoir quelques gouttes cette nuit en région parisienne, par exemple. Demain, cette perturbation, elle apporte des Pays de la Loire jusqu'au Grand Est quelques petites gouttes, mais c'est vraiment très léger. Hein. C'est une perturbation qui n'est pas très active. Sur la moitié sud, attention demain matin, encore comme depuis plusieurs jours, de nombreux brouillards. Et puis dans l'après-midi, au bord de la Méditerranée, les nuages ne se dissipent pas. Nous avons des entrées maritimes assez tenaces. Vous avez l'habitude dans ces régions. Ailleurs, le ciel est partagé entre nuages et éclaircies. Et il fait toujours aussi doux. Avec 6 à 13 degrés en début de journée, on aura 6 degrés à Belfort, 8 à Lyon et Clermont-Ferrand, 9 à Paris, 13 à Biarritz au lever du jour. et au meilleur de la journée, 13 à 16 sur la moitié nord, 16 à 21 dans le sud et jusqu'à 22 dans le Béarn à Pau par exemple.
Merci beaucoup Anissa et à tout à l'heure, 19h.
Europe 1, Isabelle Millet.
Il est 18h31, l'heure d'ouvrir ensemble le débat des grandes voix avec ce soir à mes côtés en studio l'éditorialiste d'Europe 1 Catherine Ney, Anne Fulda, grand reporter au Figaro et Louis de Raguenel du service politique d'Europe 1. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir Isabelle.
Alors, je voudrais qu'on revienne d'abord bien sûr sur l'événement de ce 11 novembre qui se déroule en ce moment, la panthéonisation de Maurice Genevoix, l'écrivain combattant, cérémonie en présence d'Emmanuel Macron, Maurice Genevoix qui entre au Panthéon avec ceux de 14, tous ces oubliés de la Grande Guerre, porte-étendard des héros de 14-18. C'est un événement que l'on suit avec, en fil rouge avec vous depuis 18h. Adrien Beck, vous êtes sur place. Où en est-on, Adrien, de la cérémonie ?
Eh bien, Emmanuel Macron vient de commencer son discours il y a quelques minutes. Il salue en Maurice Genevoix celui qui a redonné vie à ceux qui a donné chair aux combattants de la Grande Guerre, un destin républicain, une existence française. Emmanuel Macron qui s'exprime face au cercueil de Maurice Genevoix, un cercueil recouvert du drapeau bleu-blanc-rouge déposé au centre de la nef de ce panthéon. Peu avant, deux textes ont été lus, deux extraits, un extrait de ceux de 14, l'ouvrage de Maurice Genevoix qui décrit l'ignominie des combats et puis la lettre de Maurice Genevoix à son ami Robert Porchon après sa blessure au front. Voilà pour cette cérémonie qui se poursuit ici et Emmanuel Macron qui est en train de s'exprimer.
Merci beaucoup Adrien Beck devant le Panthéon. On vous retrouvera un peu plus tard bien sûr pour suivre cet hommage. Emmanuel Macron qui vient de commencer, vous nous le disiez, son discours. Alors derrière un hommage, il y a souvent un message. Cette fois, on imagine que le président de la République, les grandes voix, va sans doute faire le parallèle entre la France du Covid, la France face à la menace terroriste et la France dans les tranchées, on peut l'imaginer, Catherine Ney ?
Il va essayer de faire, de lier les périls d'hier avec les présages et la façon dont on peut surmonter aujourd'hui les crises actuelles. Peut-être, je n'ai pas écouté son discours, mais je pense qu'il
est encore personne.
L'actualiser.
Il faut montrer que les Français ont su se relever pour montrer une France qui se relèvera encore demain, peut-être.
Peut-être, mais voilà, qu'ils ont de la résilience, que quand une situation est désespérée, elle n'est pas toujours si on a du courage. Et puis, il s'agit aussi de tenter de créer un imaginaire commun. Mais je ne sais pas si un discours va suffire. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que Maurice Genevoix a sa place dans le Panthéon. D'abord, sa famille, je voudrais le citer, c'est quelqu'un qui militait pour faire entrer son beau-père. C'était le journaliste Bernard Maris qui a été tué
à Charlie Hebdo.
À Charlie Hebdo,
qui était le compagnon de
Sylvie Genevoix.
La fille de Maurice Genevoix.
Et donc, parce qu'à la fois, il représentait, à cause de ses écrits sur la guerre de 14, il était un témoin de la dureté des temps, de l'époque, avec un témoignage qui est à la fois pathétique, grandiose et merveilleusement bien écrit. Mais il était aussi... il est totalement dans l'air du temps parce que lorsqu'il est mort, Giscard avait dit, il est le premier de nos écologistes. Voyez, et c'est vrai que ses réflexions sur le lien entre l'homme, la nature, la culture, voyez, il avait écrit beaucoup de choses sur les dangers de la bétonisation, l'appauvrissement des sols. Il avait une relation charnelle avec la nature et il en parlait très très bien. Donc voilà, il y a ces deux choses qui sont liées. Et moi je dirais, et après j'arrête, la dernière chose, c'est que en nommant Maurice Genevoix, je veux dire, sûrement que Emmanuel Macron fait plaisir à sa grand-mère, parce que c'est elle qui lui lisait les livres de
Maurice Genevoix. Anne Fulda, vous pensez que le président de la République va forcément faire un lien entre l'histoire tragique de la Grande Guerre et les épreuves que nous pouvons vivre en ce moment ? Je disais tout à l'heure, Covid, terrorisme.
Oui, ça semble assez attendu. À l'époque, c'était plus... cette guerre de 14-18 a quand même été effroyable, a fait des victimes en nombre et on s'attend à ce qu'il revienne sur ce que disait Catherine à l'instant, sur les valeurs de résilience, de volonté, de courage, même si l'ennemi n'est évidemment pas le même entre celui qui était désigné pour la guerre de 14-18 et celui d'aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il y a une situation de guerre qui est sur plusieurs fronts, on l'a dit à plusieurs reprises, mais il faut le répéter, qu'il y a une crise sanitaire, il y a une crise économique et sociale qui se profile et qui va être d'une ampleur dramatique. Notamment, c'est une parenthèse pour les petits commerçants dont visiblement, auxquels on va visiblement annoncer qu'ils ne pourront pas rouvrir. Donc, ça risque d'entraîner des situations de désespoir, voire de colère. Qui sait, peut-être en résonance ce qu'a dit Raymond Soubi, et c'est, oui, c'est pas faux ce avec ce qui s'est passé avec les gilets jaunes. Donc, crise économique, crise sanitaire et crise aussi du terrorisme, enfin de l'islamisme qui est plus présent que jamais. Donc, c'est vrai que c'est pas vraiment comparable, mais bien on sûr peut faire appel aux mêmes valeurs, résilience, volonté, courage pour les combattre.
Louis Dragnel parlait du présent grâce au passé. C'est quelque chose qu'Emmanuel Macron affectionne.
Oui, alors, et d'ailleurs, l'idée d'Emmanuel Macron, c'est vraiment d'expliquer qu'on est tous les héritiers de ces héros de 14 et que l'héroïsme de ceux qui ont ont fait preuve de bravoure, de combativité, de courage. En réalité, eh bien, l'objectif d'Emmanuel Macron, c'est d'expliquer que ce courage peut se retrouver aussi aujourd'hui avec les générations nouvelles. Alors, ça représente une vraie difficulté aussi parce que pour la jeunesse, c'est un souvenir qui est quand même assez lointain. Et donc, le risque, c'est que ça fasse un peu musée, papier glacé, que ça fasse un peu histoire figée. Alors, c'est très important de célébrer la mémoire. Mais la grande difficulté aussi, c'est qu'aujourd'hui, il y a un paradoxe. C'est que l'héroïsme d'hier nécessitait d'aller au front, d'aller au combat, de risquer quelque chose. Là où aujourd'hui, l'héroïsme pour faire face à la crise sanitaire, c'est de rester chez soi et de porter un masque. Et du coup, il y a aussi tout ce paradoxe.
Bien sûr,
c'est extrêmement compliqué aussi de faire appel au passé par rapport à des actes héroïques qui ne pourraient pas se reproduire aujourd'hui, et même où on vous demande en fait plutôt de faire le contraire.
Et puis je crois qu'il faudrait, peut-être il serait bien, on voit que ce président adore les commémorations, qu'il serait bien aussi de se projeter dans un futur, même si le futur immédiat n'est pas riant, mais un futur qui puisse faire rêver. Et là, c'est vrai qu'il multiplie les commémorations à juste titre. Évidemment, c'était impossible de passer outre l'anniversaire de la mort du général de Gaulle. Mais concernant la guerre de 14-18, il y avait déjà eu cette itinérance mémorielle il y a 2 ans, qui s'était d'ailleurs terminée par les gilets jaunes, enfin, qui n'avait pas de rapport. Mais enfin, on peut dire que ça pouvait donner l'impression qu'il était d'une certaine façon totalement détaché de ce qui se passait dans le pays, quoi. Donc,
Les grandes voix, c'est passionnant. On va se retrouver dans un instant. On a parlé du président. Je vous propose qu'on s'intéresse, juste après cette petite pause, à son premier ministre. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Milleul.
18h41, on poursuit ensemble notre débat des grandes voix avec, en ce 11 novembre, à mes côtés, Catherine Ney, Anne Fulda et Louis de Raguenel. Alors demain, le Premier ministre, Jean Castex, va de nouveau s'exprimer sur la crise sanitaire. Et on sait, parce que vous nous l'avez annoncé hier, Louis de Raguenel, que l'exécutif n'a pas décidé de lâcher du lest. Bien au contraire, les sorties des Français vont être contrôlées cette fois, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Les commerces non essentiels, a priori, ne devraient pas rouvrir. Et toutes ces mauvaises nouvelles, eh bien, c'est un Premier ministre en chute libre dans les sondages qui va les annoncer. Un Premier ministre de plus en plus contesté, jusque dans son propre camp.
Oui, alors c'est pas facile pour lui, effectivement. Alors il a toujours dit qu'il se fichait complètement de sa popularité, de ce que les gens pouvaient penser de lui. Alors ça pouvait être une force au début, c'est quand même un peu compliqué parce que, si vous voulez, quand vous êtes Premier ministre, vous gérez déjà votre propre personne et donc c'est important. Et puis ensuite, vous gérez une équipe et puis vous gérez une équipe gouvernementale, un pacte gouvernemental. Et donc l'idée quand même, c'est de réussir à fédérer autour de soi quand même de l'énergie pour que tout le monde avance ensemble. Mais du coup, la question que je me pose moi aujourd'hui par rapport à ça, c'est est-ce que finalement, ce n'est pas un atout pour Emmanuel Macron qui, vous savez, il a du mal avec un Édouard Philippe qui était parfois plus populaire que lui. Alors Édouard Philippe est parti pour plein de raisons, mais on sait que cette raison comptait énormément. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que finalement, ce n'est pas plutôt un atout pour Jean Castex? Alors je sais que ma parole et le propos est peut-être un peu audacieux, un peu téméraire. Ouais. Mais on peut vraiment se poser la question, est-ce que finalement, ce n'est pas la clé de la réussite pour Jean Castex pour réussir à tenir jusqu'à l'élection présidentielle? Parce que paradoxalement, effectivement, on voit que Jean Castex chute dans les sondages et Emmanuel Macron, je ne dis pas qu'il vit une ascension fulgurante, mais ça lui permet quand même de remonter un petit peu. Donc pour Emmanuel Macron, en tout cas, c'est plutôt positif.
Catherine Ney.
C'est-à-dire que c'est toujours très désagréable pour un président de la République d'avoir un Premier ministre qui est plus populaire que lui. Dans le fond, Pompidou ne l'a jamais pardonné à Chaban, qui avait 10 points de mieux tout le temps et qui était mieux reçu par les Français. Et là, je crois que c'est encore plus difficile pour un jeune président qui a quand même été élu, qui est arrivé au pouvoir par un coup de magie que personne n'attendait et lui-même n'espérait probablement. et qui choisit un inconnu pour être son premier ministre et qui et que personne n'avait ne distinguait comme un premier ministrable, et puis qui après une année de flottement est devenu, surtout au moment de Covid, quelqu'un qui apparaissait comme un tuteur à la tête du gouvernement, alors que le président avait une communication qui était plus erratique et qui était moins coordonnée, ordonnée, et qu'on ne suivait pas. Donc il s'en est séparé parce qu'il disait qu'il fallait se réinventer. Alors maintenant, toute la question, c'est à voir s'il se réinvente. Et est-ce qu'on se réinvente avec un Premier ministre qui n'arrive pas à embarquer ses propres troupes par son récit, parce qu'il a un parler plat, il est très bavard, et on ne sait pas trop où il veut en venir. Donc, alors peut-être que c'est, comme le dit Louis, peut-être que c'est gratifiant mais d'avoir un Premier ministre qui n'est pas populaire, mais est-ce que cette non-popularité, cette impopularité ne nuit pas non plus, ne va pas finir par nuire à tout le
coup de l'exécutif ? Il n'est pas soutenu non plus, hein. Il vient des Républicains, La République En Marche ne le soutient pas énormément. Alors c'est vrai que quand on invite ici à Europe 1 des ministres, il n'y en a aucun qui va nous dire ouvertement du mal de Jean Castex, mais quand il n'y a pas de micro, on imagine que le ton change, hein, Anne Fulda.
Oui, il y a même une espèce de ton un petit peu méprisant. C'est vrai que pour dire les choses de façon un peu triviale, on va dire que, pour renchérir sur ce que disait Catherine, en fait, il n'imprime pas. C'est vrai que c'est un problème. Et je pense
c'est dans le Figaro,
pas...
d'ailleurs, qu'il y avait cette phrase, il regarde les ministres passer la balle, hein, c'est ça, je crois.
Oui, donc, et c'est vrai que c'est tout de même un problème en période de crise où il a un rôle de chef d'équipe. Il doit rassurer les Français, il doit faire un travail de pédagogie. Donc, je pense qu'effectivement, à terme, c'est un problème pour le président de la République. Ça ne risque pas de le servir, même si on peut se dire que finalement, d'avoir à Matignon une personnalité qui n'est pas éclatante, qui ne fait pas d'ombre au président, c'est dans la droite ligne de ce que disait Chirac à propos de... Enfin, à l'époque, il n'était pas Premier ministre, il était ministre de Sarkozy en disant « je décide, il exécute ». On est un peu dans cette ligne-là. Mais
vous êtes d'accord, du coup, pour dire qu'au moment de la nomination de Jean Castex, comme le disait Louis Dragnel, certains ont dit qu'Emmanuel Macron l'avait choisi pour ne pas qu'il lui fasse d'ombre. Ben, c'est gagné.
Oui, enfin, je veux bien qu'il ait toujours des pensées politiques, mais je pense qu'il a cru qu'il serait efficace. Je ne pense pas qu'il a uniquement été pris parce qu'il ne lui faisait pas d'ombre. Il ne faut quand même pas exagérer. Le problème, c'est qu'il a fait le pari un peu de ce qu'avait été le choix d'un Barre à une époque, mais il n'a pas le même aura qu'un Raymond Barre. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne connaît pas la politique. Il n'a pas été élu, il n'a pas été ministre, il n'a pas été député.
Il est maire.
Il est maire.
Quoi. Il a quand même donc, été secrétaire général adjoint de l'Élysée sous Nicolas Sarkozy.
Enfin, il connaît pas le déconfinement, mais il n'a jamais été...
Il sait quand même
comment ça se
passe.
Il connaît l'appareil politique. C'est ce qui a été vendu, effectivement, vendu entre guillemets lorsqu'il a été nommé. C'est qu'effectivement, il connaît l'appareil d'État et c'est un homme qui sait... aussi nouer les liens avec le tissu local. Mais ça ne suffit pas. Et je ne pense pas qu'il ait été choisi pour ne pas faire d'ombre à Emmanuel Macron. Et je ne pense pas que ça soit un choix très judicieux.
Louis Dragnel,
si c'est le cas.
J'en doute. Enfin, je comprends ce que vous dites, mais j'en doute un peu parce que pour Emmanuel Macron, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il a toujours fonctionné de manière très psychologique, en fait, avec à la fois son entourage, les ministres qui constituent son gouvernement. Et on voit bien, d'ailleurs, quand il y a un ministre un peu trop fort, qui a une visibilité trop forte, je pense par exemple à Bruno Le Maire, eh bien, ça l'exaspère, en fait, et c'est plus fort que lui, ça
oui,
se voit.
Oui, oui,
et à l'égard de son Premier ministre, c'était un petit peu ça, quand, souvenez-vous, avec Édouard
Philippe.
On va dire
que ce n'est pas la raison, mais peut-être
non,
que vous avez raison.
Je ne dis pas que c'est la raison, mais Emmanuel Macron, je pense plus que d'autres, fonctionne quand même beaucoup comme ça. Et juste la dernière chose, je pense qu'il y avait une qualité de Jean Castex qui plaisait à Emmanuel Macron, c'était sa connaissance de l'administration, du fonctionnement administratif de l'État. Après, effectivement, sa lacune, c'est sa connaissance du monde politique avec ses turpitudes, avec ses codes un peu spéciaux que vous connaissez très bien puisque vous croquez ses politiques depuis des années. Et ça, je pense que Castex, voilà, il saute dans un bain qu'il ne connaît pas très très bien.
On poursuit ce débat passionnant dans un tout petit instant avec vous, les grandes voix. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Milleux.
18h50, retour dans ce débat des grandes voix, toujours avec Anne Fulda, Catherine Ney et Louis de Raguenel. On évoque ce soir Jean Castex, qui va donc s'exprimer demain sur la crise sanitaire et qui ne devrait pas, aux grandes dames des commerçants notamment, annoncer d'assouplissement. Le Premier ministre, dont la cote de popularité s'effondre, qui concentre toutes les critiques sur la gestion de cette crise, alors que parallèlement, Emmanuel Macron, lui, repart à la hausse dans les sondages. Catherine Ney, Jean Castex, est-ce que c'est vraiment une erreur de casting ou est-ce que n'importe qui, finalement, à sa place dans la situation dans laquelle nous sommes, crise sanitaire, économique, terrorisme, serait autant à la traîne hein, dans les sondages.
C'est évidemment une situation très, 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 très difficile pour quelqu'un qui arrive comme ça à Matignon. Et ça avait plutôt bien démarré, hein, parce qu'en juillet, il avait fait tout un tour de France. On avait dit, mais regardez, quelle énergie. Et il avait un bon contact sur le terrain. On s'est dit, mais peut-être que ça va prendre, c'est la magie. Bon.
Ça, c'était plutôt, l'état de grâce. Hein.
C'était un état de grâce qui a duré à peu près un mois. Et puis après, il s'est quand même un peu emmêlé les pinceaux début septembre, alors que le Conseil scientifique avait dit « attention, il faudra prendre des mesures courageuses ». On a vu que c'était Olivier Véran qui devait parler et finalement, c'était lui qui prenait la parole. On s'est dit « oh là là, s'il parle de Matignon, c'est qu'il va annoncer des choses qui sont en correspondance avec ce qu'annonce le Conseil scientifique ». Au lieu de ça, c'était « mais non, il faut continuer à se laver les mains, il faut être responsable, on ne change rien ». Et c'était vraiment circulé, il n'y a rien à voir, c'était « on attend ». Donc là, ça a été une grande faute. C'est-à-dire qu'il continuait à déconfiner au moment où il aurait fallu qu'il... Et là, il ne l'a pas senti, il ne l'a pas vu, il a eu peur, vous voyez. Et il a eu d'autant plus peur qu'aujourd'hui, il faut bien dire que dans un gouvernement, on a peur des décisions que l'on prend, soit trop laxistes, soit au contraire trop sévères, parce qu'on a peur des plaintes qui peuvent être déposées, on a peur de la justice. Aujourd'hui, c'est le fait que des plaintes aient été retenues et que des ministres soient bientôt passés devant la cour de justice, c'est pas facile de gouverner.
Mais quand même, sur cette gestion de la crise sanitaire, Jean Castex, il a multiplié les maladresses. Je pense notamment à ces mesures imposées localement qui ne sont pas passées à Marseille, par exemple, où les élus avaient dénoncé un manque de concertation, alors que justement, il était présenté, Louis Dragnel, comme Monsieur Territoire. Hein.
Oui, et d'ailleurs, il l'est toujours parce qu'il est ce qu'il est. D'ailleurs, il est physiquement, même quand il parle, on voit bien qu'il n'a pas envie de mentir. D'ailleurs, il l'avait dit, j'ai pas téléchargé l'application Stop Covid. Bon, on lui a beaucoup reproché, mais on ne peut pas lui reprocher, en tout cas, d'être insincère. Ensuite, la difficulté, c'est que ce télescope énormément de crises, je pense qu'il y a quelque chose d'assez inédit.
Il reconnaît lui-même une collection d'emmerdements inédits.
C'est assez épouvantable. Hein. Je ne suis pas en train de le défendre, mais il faut quand même reconnaître que le contexte est quand même très spécial pour gouverner. Alors, du coup, effectivement, on voit que le gouvernement est tout le temps en train d'alterner entre le couple maire-préfet, donc les décisions locales, et puis les décisions nationales. On voit bien que le déconfinement s'est fait de manière plutôt locale. Ensuite, on a expliqué que s'il fallait reconfiner, on allait le faire localement. Effectivement, les autorités locales à Marseille n'étaient pas prévenues. Et puis là, on se rend compte qu'en fait, on est reparti dans une vision très nationale. Et les annonces de demain soir seront a priori aussi nationales, concerneront tout le territoire. Et du coup, en fait, on est tout le temps en train de... Enfin, je dis on, enfin, le gouvernement est tout le temps en train de se réadapter à un contexte où on voit de toute évidence qu'il ne maîtrise pas tout, puisque la crise sanitaire, la seule certitude qu'on a, c'est qu'elle est devant nous et qu'on ne connaît pas encore suffisamment bien le virus.
Alors pour l'instant, l'Élysée soutient le Premier ministre, mais jusqu'à quand? Parce que finalement, c'est pratique, Anne Fulda, il prend tous les coups à la place d'Emmanuel Macron.
Mais il joue son rôle de Premier ministre, c'est assez classique comme figure. Je pense que ça cessera si vraiment il y a un incident trop important ou si l'impopularité de Castex influe sur celle d'Emmanuel Macron et sur son autorité, surtout dans une période aussi difficile que celle que nous traversons. Parce que on revient à ça, je pense que la question peut-être centrale, c'est celle de l'autorité, parce que c'est aussi l'autorité au sein de son propre gouvernement, parce qu'on voit bien qu'il y a une sorte de il y a des discordances, des dissonances. On voit que certains ministres comme Bruno Le Maire, comme Gérald Darmanin, poussent leur avantage face à ce qui apparaît justement comme un manque d'autorité. Et du coup, ça ne donne pas une idée de cohérence gouvernementale. Or, c'est ça qui manquait, surtout c'est-à-dire cette impression qu'il y avait des incohérences dans la politique sanitaire qui était menée.
Que le gouvernement n'est pas complètement soudé. Catherine Ney, vous nous dites qu'il a quand même le soutien d'Emmanuel Macron, qu'il l'invite... à déjeuner, par exemple,
oui,
ce qui n'est pas
le
commun.
Traite beau. Mais parce qu'à l'Élysée, on pense qu'il va finir par s'améliorer. Enfin, au bout de 4 mois, Anne a raison de dire qu'il y a un problème d'autorité.
Or, puis on ne peut pas se permettre de lâcher en pleine crise sanitaire.
Non, sûrement pas pour l'instant. Oui. Sûrement pas pour l'instant. Là, ils doivent marcher ensemble. D'ailleurs, ils ne le lâchent pas, puisque c'est demain, lui, qui va parler. Et il le traite mieux qu'il ne traitait le Premier ministre précédent, parce que Emmanuel Macron déjeune en tête-à-tête avec son Premier ministre, qu'il n'a jamais fait avec Édouard Philippe.
Avec Édouard Philippe. Oui, donc ça, c'est un signe quand même.
C'est un signe qui répare aussi des erreurs et qui s'est rendu compte que si on veut que les choses aillent mieux, autant se parler en tête-à-tête, ça c'est indispensable. Bon. Mais pour l'autorité, le général de Gaulle disait que c'est un fluide qu'on a ou qu'on n'a pas et qui fait que vous arrivez, vous parlez, on vous écoute. Et voilà, c'est une sorte de magie, de don qu'on a. Et on voit bien que les ministres dont vous avez parlé, Darmanin, le maire, Bruno d'abord, le maire, ce sont deux hommes qui ont maintenant du métier, qui ont de l'assurance, qui ont un passé politique plus important, qui ont vu des modèles, parce qu'ils ont été les ministres de Chirac, de Nicolas Sarkozy. Ils ont vu comment ça se passait et ils en savent plus que l'actuel Premier ministre.
Et donc, qui sont donc en embuscade pour Matignon. Merci à tous les trois, Catherine Ney, Louis de Ragnel et Anne Fulda. Anne Fulda, je rappelle que vous venez de publier « Mes très chers monstres » aux éditions de l'Observatoire. C'est un livre dans lequel vous dressez le portrait d'une cinquantaine de célébrités. Ça va de Chirac à Delon, Depardieu, Lagerfeld, Nothomb et Bardot. C'est ça. Merci à tous les trois.
Isabelle Millet.
On se retrouve dans quelques secondes avec le journal de 19h et puis on ouvrira, comme tous les soirs, le Club des idées. Grand débat ce soir autour de cette panthéonisation de Maurice Genevoix. On reviendra sur les origines, sur les anecdotes aussi autour du Panthéon et sur les grands hommes et les grandes femmes qui l'abritent.
Europe Soir, le 18-20.